À tous sur Radio Pulitzer, votre rendez-vous incontournable. Je suis Nathan, votre fidèle cinéphile, et en ce lundi 1er avril, je vous promets que nous allons vous faire voyager entre Riverdale, la Suisse, du foot, de la pêche, Simone Veil, Disney, des jeux vidéo et Captain Marvel. Le programme va être chargé, alors embarquez avec nous pour cette épopée qui vous mènera jusqu'aux étoiles. Je vous souhaite une bonne émission et je laisse tout de suite la parole à Timo pour sa chronique sur les droits de l'homme.
Les droits de l'homme. L'homme a le droit d'être libre. La devise de la France, c'est liberté, égalité, fraternité. La liberté, le respect, c'est comme de la liberté qu'on échange avec les autres. L'égalité, c'est aussi que notre parole soit écoutée de la même manière qu'on soit riche ou très pauvre. La fraternité, chercher toujours plus de fraternité entre nous les humains. La citoyenneté, ça devrait être ça et rien d'autre. Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamées dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen, sans aucune distinction, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion ou d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. Apprendre à vivre ensemble est une drôle d'aventure. C'est fait parfois de coups de colère ou d'envie, de s'isoler dans son coin, de fuir ce qui bouscule les attitudes. C'est fait aussi de rencontres réussies, de moments pour aimer la vie. Un sac de pop-corn partagé, un splash éclaboussant dans la piscine, une fête pour un an de plus. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience, doivent agir les uns envers les autres, dans un esprit de fraternité. La leçon de morale en trois dimensions. Souvent, les adultes parlent de morale, appliquer les règles de politesse, d'hygiène, de sécurité, de respect, les lieux de vie, les biens collectifs à l'école, amour, amitié, solidarité, etc. Voilà, je vous remercie pour votre attention.
Merci Timo. Maintenant, nous voyageons vers la Suisse pour découvrir sa culture et ses paysages. Hugo, c'est à toi.
Bonjour, je suis Hugo. Aujourd'hui, je vais parler de la Suisse. Allons-y! Pour tout vous dire, la Suisse est un pays de l'Europe continentale. La Suisse a 5 frontières. Celle avec la France, l'Allemagne, l'Autriche, l'Italie et le Liechtenstein. En Suisse, il y a 26 cantons, c'est-à-dire 26 régions. En Suisse, il y a 8 millions d'habitants. Et en France, il y a 67 millions d'habitants en 2018. La belle capitale de la Suisse est Berne. Quand on demande à un Français, il répond toujours la ville de Genève. Ils se font berner. Le PIB par habitant est de 87 475 euros par an. Et oui, c'est énorme par rapport à la France qui a 47 802 millions par habitant. Et maintenant, je vais vous parler de la géographie terrestre. Allons-y. La Suisse est un pays qui possède beaucoup de montagnes. Qui ne rêve pas d'aller skier en Suisse. Les chaînes de montagnes sont les Alpes et le Jura. Sinon, ne vous dise rien. Oui, ça me dit quelque chose en lisant en France. Aussi, si vous aimez la randonnée, il y a 60 000 km de chemin. Pour faire de la randonnée, c'est fantastique pour un pays aussi petit. En Suisse aussi, des fleuves dont le Rhin et le Rhône, et le lac Léman. La Suisse est l'un des pays qui se veut le plus neutre. Il ne participe pas aux guerres. S'il y avait la guerre, tous les Suisses peuvent se réfugier dans des grottes. Nous l'espérons pas. Maintenant, je vais vous demander mon avis sur la Suisse. Oui, je vais tous les étés avec mes parents voir mes cousins. Je visite des villes comme Genève et d'autres petites villes et faire de la randonnée. J'ai visité le musée d'art de Genève. J'ai tout aimé. Oui, un truc, je déteste les gens qui sont pressés, donc ils peuvent être mal polis. Non, je ne pourrais pas y vivre car les aliments sont très chers. Bon, je vous retrouve à l'année prochaine. Bye!
Merci Hugo. Nous faisons maintenant un bond dans le temps à la rencontre d'une femme marquante du XXe siècle, j'ai nommé Simone Veil. Léna, Jeanne, à vous l'antenne.
Salut, moi c'est Jeanne.
Et moi c'est Léna. Aujourd'hui, on va vous parler d'une femme exceptionnelle qui a marqué l'histoire. Elle s'appelle Simone Veil. Simone est née le 13 juillet 1927 à Nice. Elle a grandi dans une famille juive et a des origines lorraines.
Lors de la Seconde Guerre mondiale, Simone, alors âgée de 16 ans, et sa famille sont déportées dans le camp de concentration à Auschwitz. Sous occupation, elle fait transformer son nom d'origine Jacob grâce à de faux papiers, mais se fait malgré tout arrêter avec sa famille par la Gestapo en 1944. Elle est alors transférée dans différents camps, dont Auschwitz et Bergen-Belsen.
Simone a survécu et s'est mariée avec Antoine Veil en 1946. Après la guerre, elle entame des études de droit et entre dans la magistrature. En 1974, elle entre dans le gouvernement de Jacques Chirac en tant que ministre de la Santé jusqu'en 1979. C'est à elle que l'on doit la loi sur l'interruption volontaire de grossesse, IVG, dépénalisant l'avortement. Simone Veil a fait face alors à de nombreuses menaces et intimidations, mais ce combat lui a apporté une grande popularité. Son parcours politique continue au Parlement européen, dont elle occupera le poste de présidente de 1979 à 1982. Maintenant que tu es super calé sur la vie de Simone Veil, je te propose de jouer à un petit jeu avec les auditeurs. Et si on faisait un vrai ou faux, tu en penses quoi, Jeanne ?
Oui, trop bien.
Première question, Antoine et Simone Veil sont le premier couple à être inhumé au Panthéon. Vrai ou faux ?
Vrai.
C'est faux, les époux Veil sont le troisième couple à être inhumé ensemble au Panthéon.
Simone Veil est retournée en 2005 au camp d'Auschwitz avec ses petits-enfants. Vrai ou faux ?
Faux.
Vrai, Simone Veil est retournée en 2005 au camp d'Auschwitz avec 5 de ses petits-enfants.
Simone Veil a-t-elle vécu en Allemagne après sa déportation ?
Vrai.
Vrai, 5 ans seulement après la fin de la guerre, les époux Veil partent vivre à Wiesbaden où Antoine, qui prépare l'ENA, est employé au consulat de France. Devant l'étonnement de ses proches, elle explique qu'il faut faire la distinction entre les nazis responsables de la Shoah, qui auraient pu arriver n'importe où, et les Allemands dans leur ensemble.
Simone Veil a reçu des menaces avec le vote de loi sur l'IVG, interruption volontaire de grossesse. Vrai ou faux ?
Vrai.
Vrai. L'ancienne ministre de la Santé avait confié qu'elle avait reçu des lettres de menaces à son domicile lors de la préparation du projet de loi sur la dépénalisation de l'IVG.
On ne l'a vu qu'une seule fois avec les cheveux détachés à la télé. Vrai ou faux ?
Vrai.
Vrai. L'ancienne ministre de la Santé aura marqué les esprits par son style strict et surtout ce chignon dont elle ne se séparait jamais. Excepté le 26 juillet 1986 sur le plateau d'une émission de télé présentée par De Chavannes.
Simone Veil était surnommée Lièvre agitée. Vrai ou faux ?
Vrai.
Vrai. L'ancienne ministre de la Santé avait partie des scouts laïcs avec ses sœurs Milou et Denise, ainsi que son frère Jean. Turbulente, la jeune Simone, dernière de la famille, a eu pour nom de totem Lièvre agité.
Mon Dieu, nous stoppons tout de suite notre émission pour un flash à faux. Nous retrouvons tout de suite Soren, Gabriel et Timothée.
Le président de la République a été enlevé par le gang qui répond sous le nom de Gilets jaunes Poussins. Il semblerait qu'il soit retenu dans la campagne à côté de l'épicerie Bartaba et PMU de Michel dit Le Beauf dans la commune de Montéton. Un habitant nous dit être profondément choqué par la violence de ces actes. Témoignage tout de suite en exclusivité. Pour des raisons de sécurité, sa voix a été modifiée et son identité ne sera pas divulguée. Bonjour Monsieur Kuklinski, pouvez-vous nous dire un peu plus sur cet acte sans précédent dans l'histoire de la République démocratique française ?
Salut petite biloute. Alors je vais pas vous mentir, hein, j'ai pas vu grand-chose. Le seul truc chelou que j'ai pu remarquer, c'est qu'il y avait 3 ou 4 mecs qui avait pas la coupe mulet et il traînait dans une bagnole grise. Alors que tout le monde sait que c'est pas beau une bagnole grise. Et puis, ce soir était que 2 minutes. Seulement 2 minutes dans mon bar, je vous dis. Demandez à n'importe quel type du village, hein, ils trouvent quoi ça chelou, c'est pas compliqué. Bah tiens, il y a ma petite femme là-bas, vous avez qu'à aller lui poser la question. Bon, moi je vais vous dire salut, il y a des bénéfices, des touristes qui arrivent.
Alors, allons interroger Corinne Kuklinski, présidente du club des blablateuses anonymes. Bonjour Corinne, si je vous dis que 3 ou 4 hommes qui ne portaient pas la coupe mulet, comme vous dites ici, avec une berline grise, ne se sont arrêtés que 2 minutes seulement dans le bar de votre mari, trouvez-vous cela louche ?
Salut petit chou, ça va ?
Oui, mais ce n'est pas la question pour le moment. Pouvez-vous nous répondre, s'il vous plaît ?
C'est quoi votre question, déjà ?
Ma question était, si je vous dis que 3 ou 4 hommes dans une berline grise et qui se sont arrêtés seulement 2 minutes, qui n'avaient pas la coupe mulet, vous trouvez-vous cela louche ?
Bah ouais, peut-être, mais je sais pas, au pire, demander à mon petit Kevinou. Attendez, je l'appelle, il est juste là-bas. Kevinou, chéri ! Viens là, s'il te plaît.
Alors, allons interroger Kevin Kuklinski, dit le beauf junior. En tant que digne fils de son père, il veut reprendre l'épicerie familiale. Mais pourquoi tu dis ça, il est con, ça me rend fou, cela.
Salut Edouard, ça va bien là-haut ?
S'il te plaît, dis-moi que t'as vu quelque chose, franchement.
Ben ouais, j'ai vu quelque chose, mais moi, je te dirai pas parce que t'es même pas beau. Bon, ok, je vais te le dire, mais tu répètes pas, d'accord ? Premier degré ?
Oui, j'aurai maintenant, dis-moi tout.
Ok, ok. Bon, bah alors en fait, la dernière fois, j'ai vu la dame qui s'appelait Marine Le Stylo. Et bah, elle était dans une voiture grise avec Emmanuel Macron et ils allaient au supermarché ensemble. Enfin, j'ai pas bien vu, moi, hein, ce qui se passait. C'est surtout Pépé Zaki qui était aux premières loges.
Alors, allons interroger Pépé Zaki. Si je vous dis que 3 ou 4 hommes dans une berline grise et qui ne portaient pas la coupe mulet, comme vous dites ici, ne se sont arrêtés que 2 minutes seulement dans le bar de votre fils, trouvez-vous cela louche ?
2 secondes, faut que j'arrête mon sonatone, je suis sûr comme un pot.
Si je vous dis que 3 ou 4 hommes dans une berline grise qui ne portaient pas la coupe mulet, comme vous dites ici, ne se sont arrêtés que 2 minutes dans le bar de votre enfant, trouvez-vous cela louche ?
Ah, si on m'a appris une chose, c'est qu'il fallait pas donner des informations aux inconnus.
S'il vous plaît, dites-moi.
Ah, une bombe !
Non, vous venez juste de dégazer.
J'ai juste vu qu'ils sont allés au supermarché.
Enfin, merci, au revoir.
Comment ça, vous m'avez appelé vieux crouton ?
Bon, au revoir.
Reviens, gamin. Moi, j'ai fait la guerre, on me respecte les vétérans. Ah, les jeunes de nos jours.
Le mystère de l'enlèvement de Monsieur Macron est enfin résolu.
Merci à vous pour ce flash info. Nous restons sur l'actualité française avec la rubrique d'Adélaïde qui va nous parler de son ressenti vis-à-vis des stages de 3e.
Salut, c'est moi, Tchoupi. Aujourd'hui, on va parler du stage de 3e. Ce stage est obligatoire et on l'appelle découverte. Il sert à découvrir les différents métiers pour pouvoir s'orienter pour le lycée. Apprentissage, technologique, professionnel ou encore général. Le stage dure 5 jours. Pour Paul Bert, les stages se sont déroulés du 28 janvier au 1er février 2019. Pour ma part, je l'ai fait à la Brûlerie Moderne, dans le centre d'Évreux. Pour faire votre demande de stage, vous devez faire une lettre de motivation. Si l'entreprise vous répond oui, vous devez donc leur transmettre dans les plus brefs délais votre attestation de stage. Puis, vous leur transmettrez la convention de stage. Ensuite, c'est à vous de jouer. Rendez-vous à votre stage, aux horaires et aux jours convenus. Vous allez devoir être habillé, pas en jogging basket, mais en pantalon noir de préférence et favoriser la chemise. Mais pas de t-shirt de groupe quelconque ou encore avec des insultes. Pour les chaussures, favorisez les chaussures de ville ou à talons pour les femmes. Vous pouvez très bien mettre une robe ou une jupe. Pendant votre stage, il faudra que vous preniez des notes, posiez des questions, intéressez-vous. Les maîtres de stage aiment quand leurs stagiaires prennent des initiatives et qu'ils s'intéressent. Ils n'aiment pas les feignants ou les paresseux. Sinon, vous pouvez repartir, mais eux, ce n'est pas leur problème. Ils n'en ont rien à faire. Après votre stage, il faut que vous commenciez à faire votre rapport, sinon vous allez oublier. Si vous n'avez pas pris de notes, vous allez être à la ramasse. Pour votre rapport, il faut que vous mettiez des images et des légendes. C'est très important. Vous pouvez perdre des points sinon. Bon bah voilà, vous savez tout sur le stage de découverte. A plus les amis.
C'est maintenant l'heure de la rubrique sportive de Kimis avec le PSG.
Bonjour mesdames et messieurs. Aujourd'hui on va parler du foot. On va parler du Paris Saint-Germain ou plutôt du PSG. Je suis un véritable supporter du Paris Saint-Germain et aujourd'hui je suis très triste, même déçu de mon équipe, car elle a été éliminée de la Champions League Mais avant de vous en dire plus, petite histoire. En France, il y a beaucoup de supporters, de fans du PSG. Le PSG a été créé les 1970. Le président actuel du club est Nasser Al-Khelaifi. Les joueurs que je préfère dans cette équipe sont Edinson Cavani, c'est le meilleur buteur du PSG. Luigi Buffon, c'est le plus vieux, le plus expérimenté et donc le plus sage de l'équipe. Et en plus, c'est un des meilleurs gardiens du monde. J'aime aussi Julien Draxler, car il joue aussi bien en défense qu'en attaque. Mais celui que je préfère entre tous, c'est Neymar Junior, le meilleur dribbleur du monde. Le capitaine de l'équipe est Thiago Silva. Il joue dans l'équipe nationale du Brésil.
Merci beaucoup, Kimis. Nous restons dans le domaine sportif avec Julien et sa chronique BMX. Juju, à toi l'antenne.
Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais vous parler du BMX, autrefois appelé Bicross. Le BMX est un sport extrême. Moi, je le pratique depuis 3 ans et j'aime ça. En plus, j'en fais avec mon meilleur copain. Ce sport est pratiqué avec un vélo différent des autres, car il n'a pas de vitesse, il a une selle très basse car on ne s'assoit pas dessus. Et il y a un seul frein arrière. Ce sport demande une bonne maîtrise du vélo. Les chutes peuvent être graves. Il se pratique sur une piste assez spécifique. Au démarrage, une grande descente, puis des bosses de différentes tailles. Des virages et une ligne d'arrivée. La piste a un revêtement particulier en fonction des moyens du club et de l'espace disponible. La compétition, c'est quoi ? La compétition est une course avec 8 concurrents et il faut se battre pour la première place. Elle se gagne en 3 manches, puis vient la 16e de finale, la 8e de finale, le quart ou la demi, selon le nombre de participants. L'objectif principal dans ce sport est bien sûr de gagner la compétition. Les équipements sont aussi importants car ils nous protègent. Alors, on porte un casque avec une mentonnière, un plastron pour protéger le haut du corps, puis en bas un pantalon soit de motocross ou de BMX, c'est la même chose. Et dessous le pantalon, on a des protège-tibias. Encore dessous, il y a les chaussettes qui protègent la malléole. Sur ce, je vous quitte. Allez, ciao.
Merci Juju. Place à un sport insolite, le chase tag. Mintor, je te laisse la parole.
Salut, c'est Mintor et je vais vous parler du chase tag. Le chase tag est un jeu du chat ou du loup, mais avec obstacle. Les glissantes, feintes ou saltos sont toutes les esquives sont permises pour échapper à son adversaire au cours d'une partie. C'est un nouveau sport de course acrobatique qui a été créé en 2015 par un Britannique qui est Christian Devaux. Christian Devaux a eu l'idée en jouant avec son fils. Il voulait savoir lequel des deux était le plus fort. Donc, il a ajouté des obstacles dans leur jardin. Ils ont utilisé un tas de trucs et c'était de plus en plus difficile. Et maintenant, c'est un sport extrême qui est mondial et les règles sont deux joueurs qui sont le poursuivant et le poursuivi. Le poursuivant débute la partie sur une case. Il a 20 secondes pour toucher le poursuivi. La touche doit se faire entre la taille et le cou. Si le poursuivant réussit à le toucher le poursuivi, il y a un changement. Le poursuivant devient le poursuivi. Et le poursuivi touché, eh bien, il sort. Si le poursuivi ne se fait pas toucher pendant 20 secondes, il marque un point. Le poursuivant sort. J'étais surpris que c'était un sport extrême qui venait d'un jeu pour les enfants. Ce sport, je l'ai découvert sur une vidéo YouTube. Et je pense que c'est un sport qui est bien, mais je ne l'ai jamais pratiqué, à part quand j'étais plus petit. Mais je n'aimerais pas le faire car c'est un petit peu dangereux. Je ne connais personne comme joueur français et il n'y a pas de filles qui jouent à ce sport. Et je vous dis à plus.
Merci Mintor. Nous passons désormais à une petite pause nature avec Thiago et Clément qui vont nous parler de pêche à la carpe. Les garçons, à vous l'antenne.
Salut les pêcheurs. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la pêche à la carpe. Cette activité est particulière car il vous faut beaucoup de matériel, comme une canne à pêche, une ligne, etc.
Les carpes sont des poissons qui peuvent peser entre 100 grammes et 35 kg en moyenne. La taille est d'environ 30 cm et 60 cm. Il existe différents types de carpes, comme la carpe commune ou encore la carpe miroir, la carpe coï, mais aussi la carpe cuir. Ce poisson vit en eau douce, par exemple les lacs, les mares, les étangs, mais aussi les rivières.
La carpe est un poisson qui prend sa nourriture au fond des rivières, des étangs. Elle mange en particulier des crustacés, des mollusques, des algues marines, des graines et des vers. Pour manger, la carpe utilise sa bouche pour aspirer la nourriture. Nous sommes nous-mêmes des pêcheurs. Nous pêchons à la mare de Claville, qui est une mare assez réputée pour ses carpes et sa facilité à être pêchée.
Ici, on parle des techniques de pêche que nous utilisons. Il y a le pain flottant, ce qui consiste à accrocher un bout de pain à un hameçon. Nous utilisons aussi de la pêche au feeder, ce qui consiste à remplir une cage d'amorce qui va se dissiper dans l'eau autour de l'hameçon.
Pour finir, nous utilisons la pêche à la bouillette. C'est une petite boule aromatisée que l'on accroche à ce que l'on appelle un cheveu sur la canne à pêche avec l'hameçon en dessous. C'est ce qui fait que la carpe va aspirer l'appât et en même temps l'hameçon. Il existe différents points d'eau, comme la bonne touche de conche, célèbre point d'eau pour les pêcheurs du coin. Nous avons choisi de parler pêche avec vous, car c'est notre passion. Nous avons décidé de vous la faire partager. Nous pêchons depuis l'âge de 6 ans. Mais dis-moi, Thiago, existe-t-il des compétitions de pêche ?
Oui, il y a des compétitions de pêche, même à Claville, partout en France. Il y a des concours de pêche pour la truite, le brochet, la carpe, etc. Il existe des concours de pêche internationaux de la carpe, etc. La pêche peut coûter très cher, car il faut beaucoup de matériel.
En tout cas, c'était un réel plaisir d'avoir partagé avec vous cette petite chronique des pêcheurs. On vous dit à bientôt dans une nouvelle émission.
Merci les garçons. Montez sur le ring avec nous pour découvrir le sport de Rocky avec notre expert Maloman.
Bonsoir, c'est Maloman. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon club de boxe française. Je vais vous parler des champions, tout d'abord, bien sûr. Alors il y a le vice-champion de France et la troisième du podium de France. Et moi-même, qui a été une fois champion de Normandie, une fois vice-champion de Normandie, deux fois champion de l'Eure. Et d'ailleurs, hier, j'étais à ma sélection pour le championnat de France. Mais malheureusement, je suis trop jeune. Il faut avoir 13 ans et j'ai 12 ans. Et le 24, j'ai été à mon championnat de l'Eure. Et maintenant, je suis encore champion de l'Eure. Un peu d'infos. La boxe française n'est pas comme la boxe thaï. La boxe thaï est avec les genoux et les coudes. La boxe française, c'est juste avec de la touche. C'est juste de la touche. Et c'est avec la pointe du pied. La boxe anglaise, c'est comme la boxe française, mais sans les pieds. Un peu d'info, 2. Maintenant, je vais vous parler de Marcel Cerdan. C'est un boxeur français né le 22 juillet 1916 à Sibi Bel Abbé, en Algérie, et mort le 28 octobre 1949 dans un accident aérien survenu au-dessus de l'archipel des Açores. Alors si cette chronique vous a donné envie de faire de la boxe française, alors n'hésitez pas à aller à Garel ou le complexe sportif de Maxime Marchand pour vous inscrire. Les cours se font le lundi et mercredi à 19h à 20h pour les ados et 20h à 21h30 pour les adultes. Bye.
Merci,
bye.
Maloman. Nous restons sur les combats, mais nous partons dans l'univers manga avec William, notre chroniqueur préféré, et sa chronique Hunter x Hunter.
Salut tout le monde, c'est moi, William, votre chroniqueur préféré. Pour cette chronique, nous évoquerons le sujet de Hunter x Hunter. Hunter x Hunter est un manga écrit et dessiné par Yoshihiro Togashi, maintenant malade, le pauvre. En mai 2013, le manga s'était vendu à plus de 65 millions d'exemplaires au Japon. Waouh, quand même! La version française est publiée aux éditions Kana et 35 tomes sont sortis depuis le 29 juin 2018. Hunter x Hunter raconte l'histoire de Gonfrix, un garçon de 12 ans. Il rêve de devenir Hunter, chasseur en anglais. Les Hunters sont des aventuriers d'élite qui peuvent être chasseurs de primes, chefs cuisiniers, archéologues, zoologues, justiciers ou consultants dans divers domaines. Bref, ils sont partout. Son père, Jean Frix, qu'il ne connaît pas directement, est considéré comme un des plus grands hunters de son temps. La classe. C'est aussi pour le retrouver que Gon veut devenir hunter. Cependant, l'examen de hunter a lieu chaque année et est extrêmement difficile et périlleux. Et oui, ça va pas être du gâteau. On dit qu'un candidat sur 10 000 arrive sur le lieu des épreuves et qu'un seul candidat tous les 3 ans devient hunter à sa première tentative. Pas beaucoup donc. Durant les épreuves, il n'est pas rare d'être blessé, voire tué par des monstres, des pièges ou même d'autres concurrents. Ah oui, d'accord. Au cours de cet examen, Gon va rencontrer différents personnages, aussi bien amis qu'ennemis. Kurapika, dont le seul objectif est de venger son camp. le clan Kuruta, assassiné par la brigade fantôme et tenté de récupérer les yeux de son clan, les pupilles écarlates. Leolio, dont le seul but avoué est d'acquérir de l'argent pour financer ses études de médecine. Kiroa, qui a le même âge que Gon, fils d'une famille d'assassins d'élite, la famille Zoldyck, ne souhaitant pas poursuivre la voie de sa famille, il participe à cet examen par simple amour du défi. Gon, après avoir commencé la tour du tournoi céleste, va apprendre une toute nouvelle technique, le Nen, la chance. Le Nen est une énergie caractéristique du manga Hunter x Hunter qui puise sa force dans l'énergie vitale. Les quatre grands principes sont les pratiques destinées à accroître cette énergie. Pour faire simple, c'est giga puissant. Pour moi, ce manga animé mérite d'être un véritable chef-d'œuvre. En regardant celui-ci, j'ai tout de suite compris que son créateur y avait mis tout son cœur et son imagination. L'idée du Nen est géniale. Cela fait renforcer le charisme de Gon et améliore les capacités meurtrières de Kiroa. Un de mes moments préférés d'Hunter x Hunter est lorsque Gon, Kiroa et plein d'autres personnages entrent dans un jeu créé par le père de Jin, Greed Island, le père de Gon. Pendant ce moment de l'histoire, Gon va rencontrer Biscuit, une fille ayant en réalité 60 ans. Seulement, elle possède la faculté de pouvoir se rajeunir grâce à son Nen. Elle apprend le Nen à Gon et de Kiroa de manière beaucoup plus poussée. Si j'avais un seul manga ou animé à vous conseiller, ce serait celui-ci. C'est tout simplement un chef-d'œuvre. Je l'ai déjà conseillé à plusieurs de mes amis et croyez-moi, il en vaut la chandelle. Autant vous dire qu'il n'est pas piqué des hannetons. Bon, ok, j'arrête. Avant de conclure, je tiens à dire que plusieurs de ces informations sont tirées de Wikipédia. Et c'est avec cette conclusion que je vous quitte et vive les Hunters!
Merci William! Cube Hearts va désormais vous faire plonger dans le monde sous-marin d'Abzu. Cube Hearts, à toi l'antenne!
Bonjour à tous, c'est Cube Hearts qui vous parle. Et aujourd'hui, nous allons faire une petite pause jeu vidéo avec Abzu. Vous connaissez peut-être. Le nom de ce jeu vient du sumérien Abzu, qui veut dire « océan de sagesse ». Ou de l'Apsu par rapprochement, qui est le départ de toute source d'eau sur Terre. Dans ce jeu, vous incarnez un robot humanoïde au costume noir et au casque jaune avec une tête noire, aux yeux noirs, un contour blanc, beaucoup de noir. Ce jeu vous emporte dans les océans, des plus lumineux aux plus sombres et profonds. Je vais vous expliquer comment marchent les différents niveaux. Vous allez chercher un robot pour couper une barrière de corail, pour aller à un portail qui vous mènera dans une dimension avec quatre piliers qui représentent les quatre divinités marines, les Remanta, des Calamar, des Orques et j'ai oublié l'autre. Quand vous touchez une bulle, elle-même dans les creux des piliers, vous faites revivre les espèces divines. Le je suis son cours jusqu'à qu'au dernier pilier. Vous faites apparaître l'espèce, justement celle que je connais pas, et après cela, un requin apparaît qui vous donne un pouvoir, celui de briser les triangles, qui sont des bombes de stun non létales. Vous les avez déjà rencontrés avant. Je vous dis pas tout parce que sinon vous allez pas vous amuser. Vous pourrez maintenant faire remonter les eaux en brisant les quatre triangles qui retiennent les eaux pour enfin libérer les eaux de l'emprise de la technologie humanoïde et le jeu. Et puis après ça, le jeu se finit de façon épique. Vous venez de ressortir d'une pyramide abîmée et peut-être un peu petite. L'écran de fin s'affiche avec les crédits qui vont avec. 3 heures de jeu se sont envolées. Mais cela aura été une bonne aventure. Vous serez attaché aux personnages, aux poissons, à cette faune et à cette flore, et vous avez envie de revivre cette aventure, ayant pour but de mettre en avant la pollution de l'eau et l'abus de la technologie par l'humain. Le jeu est disponible sur PC, Switch et PlayStation 4. Alors faites-vous plaisir!
Merci Cube Hearts! Oh, William, c'est encore à toi. Eh bah, on part avec toi pour découvrir la légende de Zelda.
Rebonjour à toutes et à tous, et c'est encore moi, William, votre chroniqueur préféré. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une des licences les plus connues de Nintendo, The Legend of Zelda. De son français, la légende de Zelda, cette licence est apparue pour la première fois sous le nom de The Legend of Zelda, développée et éditée par Nintendo le 21 février 1986 au Japon. En juin 1987, il sort sur la NES, c'est pas très récent donc. Mis à part quelques épisodes tels que The Legend of Zelda Majora's Mask ou The Legend of Zelda Link's Awakening, chaque jeu de la série suit un scénario principal identique. Link, le protagoniste de l'histoire, doit sauver Zelda, la princesse du royaume d'Hyrule, capturée par le fléau Ganon, le méchant. Lorsque celui-ci est en forme humanoïde, il se fait appeler sous le nom de Ganondorf. L'histoire se déroule sur le royaume d'Hyrule. Celui-ci possède une malédiction, le fléau de Ganon qui survient tous les 100 ans. Pas de chance. Les habitants sont les Iliens, mais sont présents aussi parfois des Aura, des Anuki, des Goron, des Gerudo, des Sheika, des Korogu ou des Kokiri. Mais cela dépend de la version auquel vous jouez. Et oui, sinon ça en ferait beaucoup trop. Dans l'histoire, chaque personnage possède un but précis. Link doit sauver la princesse et détruire le fléau Ganon avec l'aide de Sage et de l'épée de légende, ou en anglais, The Master Sword. Il possède un des trois fragments de la Triforce, celui du courage. Zelda, elle, doit enfermer le fléau dans un puissant sort dont seule la princesse du royaume d'Hyrule en possède le pouvoir. Elle possède un autre des fragments de la Triforce, celui de la sagesse. Ganon, lui, veut récupérer les trois fragments de la Triforce pour reconstituer et enfin contrôler le monde. Il possède le troisième fragment de la Triforce, celui de la Force. Mais vous vous demandez certainement, qu'est-ce que la Triforce ? Eh bien la Triforce, également appelée la puissance des dieux ou le triangle d'or, est une relique représentant le symbole des trois déesses d'or d'Hyrule. Les trois déesses sont Faror, déesse du courage et du vent, lors de la fondation d'Hyrule. Elle crée toutes les formes de vie pour le respect de la loi. Nehru, déesse de la sagesse et de l'eau, lors de la création de Hyrule, elle donne au monde l'esprit de la loi. Din, déesse de la force et du feu, lors de la fondation d'Hyrule, elle cultive le sol pour créer la terre grâce à ses bras de flamme. Cette licence possède, pour moi, un style nostalgique qui se fait ressentir dans chaque version. C'est pour cela que j'aime cette licence, car elle est plus qu'inoubliable. Après avoir traversé le royaume d'Hyrule, pendant des heures et des heures, on se retrouve droit devant le boss final du jeu, et lorsqu'on l'a terminé, on est souvent ému par le chemin parcouru auparavant pour enfin finir un chef-d'œuvre. De plus, cette licence n'a jamais cessé d'évoluer, avec à chaque fois un tout nouveau monde à explorer. Nous sommes quand même passés de The Legend of Zelda A Link to the Past, sorti sur la SNES en 1992, puis sur la Game Boy Advance en 2003, à The Legend of Zelda Breath of the Wild, sorti sur la Nintendo Switch et sur la Wii U en 2017. Enfin bref, cette licence est et restera toujours ma préférée, de plus que j'adore les RPG et les open world, RPG qui signifie World Player Game, de son français jeu de rôle, et Open World qui signifie monde ouvert, tout simplement.
Merci William, nous quittons maintenant le royaume d'Hyrule pour une petite ville innocente des États-Unis. Je laisse la parole à Soraya qui sera votre guide.
Bonjour à tous, je suis ici pour vous présenter une série que vous connaissez sûrement, qui a débuté en 2016 et qui n'est pas encore finie. Actuellement, il y a 2 saisons complètes et la 3e est en cours, comptant déjà 17 épisodes visionnables via Netflix. Bien, je vais commencer par un synopsis et je vous présenterai ensuite quelques personnages clés de cette histoire. C'est la rentrée dans la petite ville de Riverdale qui se remet doucement de la mort tragique du jeune Jason Blossom. Cette rentrée est un nouveau départ pour Archie Andrews qui veut faire carrière dans la musique malgré la fin de sa relation secrète avec sa professeure de musique qui lui sert de mentor et la fragilité de son amitié avec son meilleur ami Jughead Jones. De son côté, sa meilleure amie Betty Cooper, secrètement amoureuse d'Archie, doit faire face à sa mère surprotectrice qui la drogue aux médicaments. Mais tout va commencer à changer pour elle quand elle veut faire la connaissance de Veronica Lodge, une nouvelle et riche élève qui arrive en ville à la suite d'un scandale ayant touché de près sa famille. Mais tout ceci n'est qu'une partie des nombreuses histoires et secrets qui peuplent Riverdale, une ville calme et à l'image parfaite, mais qui cache dans l'ombre de nombreux dangers et une face très obscure. Très bien, j'espère que ça vous a plu, maintenant passons aux personnages. Je commence par la mignonne et presque parfaite Elizabeth Cooper, surnommée Betty par ses amis, et par à peu près tout le monde en fin de compte. L'actrice qui joue son rôle se nomme Lily Reinhardt et a 22 ans. Au début de la série, c'est une jeune fille innocente et bonne élève, manipulée par sa mère, Alice Cooper, une femme assez tyrannique. Ensuite, nous avons Archibald Andrews, ou Archie, un rouquin charmant et également le meilleur ami de Betty. Son rôle a été attribué à KJ Apa. Archie est un garçon gentil, serviable, et il est le voisin de Betty. Il fait du football américain et aime composer des chansons. Maintenant, passons du côté sombre de la force avec Jughead Jones, un garçon solitaire et passionné d'écriture. Le personnage de Jug est joué par Cole Sprouse, un acteur de 26 ans. Il incarne un jeune homme distant mais qui va se sociabiliser au fil des épisodes. Terminons sur Veronica Lodge, une très belle jeune fille riche et nouvelle à Riverdale High, l'une des universités de la ville. Son interprète est Camilla Bendes.
Au tout début de l'histoire, elle fait tous les efforts possibles pour s'intégrer, malgré sa tendance à être arrogante, qui est sûrement due au fait qu'elle était une petite fille gâtée. Ok, j'espère que ça vous a donné envie de regarder cette série. Maintenant, j'ai quelques anecdotes à vous proposer. Anecdote numéro 1. Lily Reinhardt, qui joue Betty, et Madeleine Petch, qui joue Cheryl, sont en colocation dans la vraie vie. Anecdote numéro 2. Cole Sprouse, l'acteur qui joue Jughead, devait auditionner pour le rôle d'Archie Andrews. Anecdote numéro 3. Un album Riverdale est sorti avec les chansons d'Archie, Josie et les Pussycats, un groupe de musique que l'on voit souvent de Riverdale. Anecdote numéro 4, mais elle est seulement pour ceux qui ont vu la série. Différentes fins ont été tournées pour l'épisode 12 afin que l'équipe ne sache pas qui a tué Jason. Anecdote numéro 5, à la base Riverdale devait être un film. Ah, et aussi il y a pas mal de quiz sur internet à faire pour savoir quel personnage tu serais. J'en ai déjà fait un et je serai Cheryl, un de mes personnages préférés. Pour finir, passons à mon avis sur tout ça. Je n'ai pas encore fini cette série, mais j'avance vite car l'enquête est passionnante. Mes personnages préférés sont Veronica et Cheryl, car ils ont quelque chose en commun à la répartie. Ensuite, j'ai découvert Riverdale grâce à des amis et je ne regrette pas de m'y être lancée. Alors je vous encourage fortement à faire de même. Bye!
Merci à toi pour ce petit point série. Oh, entendez-vous cette musique tout droit sortie de vos films préférés? Eh bien oui, vous avez raison, Léna va vous transporter avec elle jusqu'au monde merveilleux de Disney.
Bonjour à tous, c'est Léna. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'une personne que l'on porte un peu tous dans nos cœurs, Walt Disney. Parlons d'abord de son histoire. Walt Disney, de son vrai nom, Walter Elias Disney, est né le 5 décembre 1901 à Chicago et est mort à l'âge de 65 ans à Burbank, en Californie. Durant sa jeunesse, Walt et son frère Roy travaillent pendant leur temps libre dans l'entreprise de leur père pour arrondir les fins de mois de la famille. Alors que Walt et sa sœur rentrent au collège, Roy doit travailler dans la ferme de l'oncle Robert, puis dans une banque pour subvenir aux besoins de la famille. Walt Disney apprend au Chicago Art Institute, dans lequel les samedis matins, il travaille sur les rudiments du dessin. La Première Guerre mondiale éclate, mais il est trop jeune pour combattre. Walt n'a que 16 ans. Il apprend qu'il peut s'engager à la Croix-Rouge. Alors, après un entraînement, il est en... Après un entraînement, Walt est incorporé à la division de la Croix-Rouge. Il fait son entrée dans la guerre, le lendemain du 12 novembre 1918, date de l'armistice. Commence alors l'ascension de Walter, je dirais, dans la réussite, car Walt a un rêve, devenir dessinateur. Pour y parvenir, il crée avec son frère Roy un studio d'animation. Ainsi, dans le garage de leur oncle, il débute les Disney Brothers Studios. Plus tard, ils se transformeront en Walt Disney Studios. La création de Mickey Mouse. Tout commence en fait en mars 1928. Walt Disney, jeune producteur de 26 ans, est contraint de trouver un successeur à son personnage d'Oswald le Lapin Chanceux, créé avec le dessinateur Hub Iwerks quelques années auparavant, mais dont il vient de perdre les droits. Dans le train ramenant Walt à Los Angeles, Disney cherche une solution. Il ne peut pas annoncer à son équipe qu'il a perdu le personnage de Oswald. Alors il crée le personnage de Mickey, beaucoup plus facile à dessiner, car il a les oreilles rondes et non allongées comme celles d'Oswald. Et comme vous le savez, ce personnage aux oreilles rondes a connu un immense succès. Coup de cœur et coup de patte. Coup de cœur. Alors moi, personnellement, j'ai adoré les Aristochats.
Ah ouais, moi, j'ai beaucoup aimé les 101 Dalmatiens et puis Ratatouille.
Ah ouais, c'est vrai qu'ils sont sympas, mais il y en a tellement, Tarzan, Aladdin, Blanche-Neige, La Belle et le Clochard, Alice au Pays des Merveilles.
Ouais, et puis Le Bossu de Notre-Dame, Winnie l'Ourson, Pinocchio, Peter Pan, Vaiana.
Bernard Bianca, il est génial celui-là.
Ouais, Lilo et Stitch, Réponse.
Oui, je pense qu'on a compris. La Reine des Neiges, Bambi, Le Roi Lion. Calmez-vous.
Roxaruki.
Mais vous allez vous taire. Coup de patte. Je dirais que personnellement, les Star Wars Disney, c'est pas les meilleurs des Star Wars que j'ai vus.
Pas faux. C'est tout.
Oui. Bon, je crois qu'il est temps de clore cette chronique. J'espère qu'elle vous a plu et que vous avez appris beaucoup de choses sur Walt Disney. A plus.
Merci Léna. Maintenant, c'est mon tour. Je vais vous présenter le film du moment, Captain Marvel. Captain Marvel est le 21e film du MCU, ou Marvel Cinematic Universe, et est arrivé en salle le mercredi 6 mars. Prenant place dans les années 90, le film retrace l'histoire de Carol Danvers, qui devient l'une des héroïnes les plus puissantes qui ait jamais existé, après que la Terre s'est retrouvée au centre d'un conflit galactique entre deux races extraterrestres millénaires, les Kree et les Skrulls. Découvrez ce qui fait un héros, découvrez là où tout commença, découvrez celle qui peut sauver l'univers entier, Captain Marvel, Higher, Further, Faster. Ce film, réalisé par Ryan Fleck et Anna Boden, signe la première apparition du personnage de Carol Danvers au cinéma et est le premier film solo de l'univers cinématographique Marvel à être porté par une femme. Ce film est aussi une étape importante pour le MCU, car c'est celui qui débute la nouvelle décennie et ouvrira des portes pour vaincre Thanos dans Avengers 4. Incarnée par l'actrice oscarisée Brie Larson pour The Home, Carol Danvers est décrite par le magazine américain Entertainment Weekly, magazine de référence pour tous les geeks, comme un personnage très téméraire, voire trop, sarcastique à souhait mais avec un cœur en or, se battant pour ce qui est juste. Sa devise, plus haut, plus loin, plus vite, résume bien l'état d'esprit du personnage qui essaie toujours de faire plus pour le monde et se relève toujours après la chute. Cependant, quelques semaines avant la sortie de ce film, il fait déjà polémique. Effectivement, le film est victime de plusieurs rumeurs et critiques sur la toile. Et devinez pourquoi elle est victime de toute cette machination ? Eh bien parce que ce film est le premier du MCU à être porté par une femme. Brie Larson est attaquée par une horde de trolls et de haters depuis la sortie de la toute première bande-annonce. Vous savez évidemment tous ce que sont les trolls et les haters, non ? Pour faire court, ce sont des bandes organisées qui s'attaquent à des personnes ou des œuvres uniquement pour des désaccords politiques, sexistes, etc. Que des horreurs. Le film serait, certains internautes, une incitation à la haine et à la violence contre la communauté LGBT et Brie Larson, une spécialiste du non-jeu. Bien évidemment, toute cette controverse n'est que l'invention de trolleurs. Cela prouve encore une fois que les femmes ont du mal à se faire une place dans l'industrie des super-héros. C'est débitant. Bref, concernant Captain Marvel, je suis très pressé de découvrir ce film et je suis sûr qu'il impactera le futur de l'univers Marvel que l'on connaît. Je suis persuadé qu'il ouvrira la porte des aventures cosmiques pour nos héros et que ce nouveau personnage changera la donne pour le combat contre Thanos. Captain Marvel brillera par son originalité, ses personnages attachants et l'alchimie entre ses acteurs. Malgré toute cette polémique sexiste, Captain Marvel s'élèvera dans le ciel pour détruire des vaisseaux spatiaux Skrull dans le vide intersidéral. Higher, further, faster. Merci à vous, chers auditeurs, pour avoir été avec nous durant ce voyage, et merci à tous nos chroniqueurs de cette année pour ce super travail. C'était Nathan et je vous salue. À l'année prochaine!
Bonne radio, toujours plus haut.